Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, les éditions de l'IMJ ont publié un nouveau disque intitulé « Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra ». Alors ce disque a pour objectif de nous faire découvrir les œuvres hébraïques de Jacques et son père Isaac Offenbach et d'autres compositeurs de musique lyrique d'origine juive. Il est en effet assez fascinant de constater des similitudes dans les trajectoires de plusieurs compositeurs juifs du XIXe siècle. Avec l'émancipation des Juifs en 1790-91 et l'instauration des consistoires israélites en 1808, les Juifs ou les Israélites, comme on les dénomme alors, ont acquis le droit de pouvoir exercer des professions qui leur étaient alors interdites. Et parmi celles-ci, la musique. C'est ainsi que bon nombre de musiciens juifs vont pouvoir bénéficier d'une formation reconnue dans les plus grandes écoles de musique, telles le Conservatoire de Paris. Attirés par cette opportunité qui s'offre à eux, de nombreux artistes juifs vont donc émigrer en France pour s'installer donc à Paris, qui est alors la capitale culturelle de l'Europe. Parmi eux, un certain nombre de musiciens juifs allemands ou alsaciens, dont les noms vont bientôt rayonner sur les scènes musicales de France et d'Europe. Isaac Strauss, Emil Waldteufel et Jacques Offenbach deviennent en quelques années les rois de la valse du Second Empire. Frommenthal à Lévy, Giacomo Meyerbeer ou encore Jacques Offenbach régalent les mélomanes de leur opéra, qu'il s'agisse d'œuvres sérieuses ou légères. Et ces musiciens ont pour particularité d'avoir été bercés par les chants de la synagogue. Jacques Offenbach a ainsi puisé une partie de son inspiration dans la musique liturgique apprise dans son enfance auprès de son père Isaac Offenbach, musicien, chantre et compositeur à la synagogue de Cologne en Allemagne. Et c'est cette histoire familiale particulière que mon invité de ce soir, Jacobo Kaufmann, va nous raconter. Jacobo Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis absolument ravi de vous recevoir dans cette émission. C'est pour moi un honneur.
Moi aussi.
Alors, je vais m'efforcer de vous présenter brièvement parce que vous avez une carrière tellement longue et tellement enrichissante. Vous êtes né en Argentine.
Oui.
En quelle année, si c'est pas indiscret?
1939,
mais vous êtes tout jeune et surtout avec...
Mais non.
Ah, mais je vous assure. Et alors, vous avez fait une carrière, je crois, de... Tout ce qui est art de la scène vous passionne. Hein. Vous avez effectué une carrière de metteur en scène.
Oui, de théâtre, d'opéra aussi.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous parler de votre carrière?
Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé très très jeune en Argentine. Mon maître dans l'école d'opéra de Teatro Colón, que c'est le bâtiment le plus grand d'opéra de l'Amérique latine, un des plus grands du monde, il m'a donné l'opportunité d'aller de faire ma première mise en scène. Et après, j'ai eu la chance d'être contacté par des autres maisons. J'ai allé au Chili, qui est tout voisin. Et après, je suis allé en Amérique. J'ai fait Boris Godunov en Houston et San Diego. Et après, il faut beaucoup de chance dans ce métier.
Alors, il faut de la chance et du talent, vous en êtes absolument pourvu.
Il faut être dans le lieu juste, au temps juste.
Ça, c'est toujours pareil, être au bon endroit et au bon moment.
Oui.
Et vous habitez Jérusalem, je crois, aujourd'hui.
J'habite à Jérusalem, oui.
Depuis combien d'années vous êtes installé
en Israël? 72.
Ah oui, ça fait quelques années quand même.
Oui. Oui.
Alors, entre nous, vous m'avez dit que vous parliez couramment 6 langues, donc je vous demande juste de vous concentrer sur le français ce soir, ça suffira.
C'est un peu difficile parce que ce n'est pas ma langue maternelle, naturellement.
Ben, écoutez, j'aimerais bien parler l'espagnol ou l'hébreu ou le yiddish comme vous parlez le français. Alors, on va se concentrer ce soir sur la vie et l'œuvre de Jacques et Isaac Offenbach,
oui.
Auquel vous avez consacré deux livres, Isaac Offenbach and His Son Jack, dont on va reparler tout à l'heure, ainsi que Jacques Offenbach in Spain, Italy and Portugal, traduit en plusieurs langues. Et en 1997, vous avez contribué donc avec votre ami Raymond Goldstein, qu'on salue au passage, à l'édition d'un premier disque consacré au chant de la synagogue d'Isaac et Jacques Offenbach. Et ce disque est épuisé depuis des années, mais je vous propose d'écouter un extrait du premier morceau de ce oui. disque. Il s'agit de la poésie religieuse « L'Echa Dodi » de Kabbalat Shabbat, pour l'accueil du Shabbat, interprétée ici par le Philharmonischer Chor Siegen et l'ensemble Cantemus sous la direction de Herbert Hermert, le soliste ici, et le cantor Moshe Eschel. L'Echa Dodi d'Isaac Offenbach, interprété ici par le cantor Moshe Eschel, donc avec le Philharmonischer Chor Siegen et l'ensemble Cantemus, donc direction Herbert Hermert, extrait donc d'un CD qui s'appelait Gesänge aus der Synagoge, Isaac et Jacques Offenbach, paru en 1997 et malheureusement épuisé. Alors, Jacobo Kaufmann, je vous vois bouger, gesticuler, vous voulez nous dire quelque chose?
Oui, ce disque a été enregistré à Bad Ems. Bad Ems, c'était un lieu de vacances thermales où Jacques Offenbach allait souvent. Et on a fait un concert dans la synagogue qui est restée à Rundstrasse à Cologne et après à Bad Ems avec la radio de Cologne. Et on a enregistré ça. La musique, vous savez, a été arrangé par Raymond Goldstein. Il est un très grand compositeur lui-même et nous avons travaillé beaucoup sur les manuscrits originaux de que j'avais trouvé de toutes ces chansons. Le Khadodi que nous avons entendu maintenant a été composé entre les années 1828 et 1834. Je ne sais pas exactement parce que c'est seulement à peu près qu'on peut le dire.
Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la vie d'Isaac Offenbach. Alors je le prononce à l'allemande, nous en français on dit Isaac Offenbach. D'où vient d'abord ce nom de Offenbach?
Parce qu'il était né à la ville, le père de Jacques, Isaac Offenbach, était né à la ville d'Offenbach, qui était très voisine de Francfort, sur le Main. Et, il a perdu ses parents quand il était jeune, ou peut-être un enfant même. Il a peut-être été aidé par les membres de la communauté et on lui a enseigné les choses relationnées avec la Bible, les prières et tout ce qu'il est devenu chantre de synagogue après avec les connaissances qu'il a reçues là-bas. Son vrai nom était Eberst. On n'est pas sûr si c'était Eberst ou Eberstadt. Ça dépend comme il l'écrivait en hébreu. Mais sûrement l'employé allemand disait Eberst.
D'accord. C'est pas, et parce que Stadt en allemand ça veut dire la ville. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi une ville qui s'appelle
Eberst? Il a cinq ou six villes du même nom en Allemagne. Ouais. Alors je pense que on parle d'une ville près de Wiesbaden. Mais on n'est pas sûr. Alors, il est, avec ce nom-là, il est arrivé, après un voyage, il avait reçu un laissez-passer du gouvernement pour aller voyager et librement comme juif, n'est-ce pas, jeune juif, et pour faire de la musique, on disait là-bas dans le document, dans la synagogue. Et il est arrivé à Deutz. C'est de l'autre côté de la rivière, n'est-ce pas, et a fait la connaissance des gens qui habitaient là, le membre plus distingué de la communauté. Et il a épousé la fille d'un d'eux, la famille Rinskov, Marianne ou Myriam Rinskov, là-bas.
Donc il a fait un bon mariage, comme on pouvait l'espérer, pour un musicien itinérant. Alors.
Pas seulement ça, il a fait beaucoup de la musique, il a composé déjà très jeune.
Bien sûr. Oui. Alors, comme vous le savez, le principe de cette émission, c'est qu'on intercale régulièrement des musiques. Oui. Et ce que vous nous racontez est absolument passionnant. Et je vous propose de faire une pause musicale avec le psaume 150 Alléluia donc d'Isaac Offenbach. La particularité de ce psaume qui clôture, donc est le dernier psaume des Tehillim, du livre des psaumes, et qu'il exhorte les hommes à louer le Seigneur au son des différents instruments de musique de la Bible. Je vais pas le traduire entièrement, mais voyez, c'est louer au son du chauffard, de la lutte, du luth, de l'harpe, du tambourin, des instruments de danse, à cordes, la flûte, cymbale, etc., etc. Et c'est absolument intéressant parce que on a la mention de ces des différents instruments bibliques en fait qui étaient utilisés à cette époque. Donc c'est tout un symbole et on en écoute la version donc mise en musique par Isaac Offenbach.
Alleluia.
Le psaume 150, Alléluia, d'Isaac Offenbach, pour chœur, ténor, solo et orgue, sous la direction d'Hector Sabot et l'ensemble à truite lyrique, dans le disque qui vient de paraître aux éditions de l'IMJ, Jacques Offenbach et ses proches de la synagogue à l'Opéra. Je vous redonnerai à la fin de cette émission les références, bien sûr, de ce disque, si vous souhaitez vous le procurer. Alors, une question d'ailleurs par rapport à ce qu'on vient d'entendre et par rapport à ce qu'on a entendu précédemment, c'est qu'ici, on a un chœur mixte. Dans les partitions que vous avez retrouvées, est-ce qu'on a une idée des arrangements? Quand Isaac Offenbach écrit, il écrit pour chœur, est-ce que ce sont des femmes qui chantent à l'époque ou est-ce que ce sont des enfants? Ça, c'est toujours une question qu'on se pose.
Probablement des enfants, parce que c'était une toute petite synagogue à Cologne. Et plutôt dans la direction, la tendance orthodoxe. Mmh. Alors, les morceaux qu'on a trouvés, les manuscrits, étaient faits pour lui-même et quelques enfants. Mmh. Ou peut-être même un trio, comme on le fait souvent dans cette époque-là. Et par ailleurs, j'ai oublié de mentionner que pourquoi on l'a appelé Offenbach. Avant, on l'appelait Der Offenbacher, celui qui venait de la ville d'Offenbach, comme c'était d'habitude le nom de la ville d'où on venait, ou la profession. Mm. Et ce sont les deux origines de noms de famille qu'on a reçus après le décret de Napoléon.
Oui, qui a obligé les Juifs à changer leur nom et à adopter des noms. En 1808, des noms dans la langue du pays, en l'occurrence en allemand.
Oui.
Alors, justement, là, vous nous donnez des dates, et tout à l'heure, vous nous avez dit les radodies entre 1828 et 1834. Là, cette Alléluia, est-ce qu'on peut aussi le dater? Comment vous faites, en fait, pour dater un petit peu ces morceaux?
Parce que, quelquefois, c'est écrit dans le manuscrit, oui.
Ouais.
La date hébraïque.
Oui, bien sûr.
Et naturellement, on peut le traduire en... ce que nous avons entendu maintenant, l'Alléluia a été écrit entre 1819 et 1830. Mais c'est pas exactement quand ça a été fait. Et d'ailleurs, vous savez que le Hadodi, il existe 2000 versions dans le monde. Mais lui-même, Isaac, a écrit pareil
quelques-unes de ces 2000 versions. Alors, non seulement il y a 2000 versions et Isaac Offenbach en a écrit un certain nombre, mais je crois que Isaac Offenbach avec sa femme Marianne Rinskop ont eu un certain nombre d'enfants. Alors, c'est peut-être pas 2000, mais ils en ont eu combien?
Ils étaient au 9, au 10, je me rappelle plus.
Jacques était le septième. Oui. Parce que selon les biographies, des fois j'ai trouvé 9, des fois j'ai trouvé 10, et c'est vrai que c'est pas très clair.
Il y a deux enfants qui sont morts très jeunes.
Voilà l'explication. Oui. Alors, Marianne et Isaac Offenbach vont s'installer donc à Cologne. En quelle année et comment Isaac gagne-t-il sa vie alors à Cologne?
Bon, à peu près 1818 ou quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement. Il était au Griechenmarkt, c'est le marché grec. C'était un endroit très, très humble et il gagnait la vie en enseignant les instruments qu'il lui-même avait appris comme autodidacte. Et il enseignait le chant aussi. Et il chantait quelquefois à la synagogue de Cologne, et qui était nouvelle à cette époque-là, parce que les Juifs ont été expulsés de l'Allemagne en 1400 et ont retourné seulement au commencement du 19e siècle. Mmh. Et la synagogue était très nouvelle à cette époque-là. Et il avait autres endroits à côté du Rhin, n'est-ce pas, où il allait se produire là. Et après quelques années, on l'a pris professionnellement, mais avec très peu d'argent.
Comme chantre, en fait, il est devenu chantre.
Oui, il était devenu le chazan de la communauté de Cologne. Et il n'avait pas de rabbin. Le rabbin se trouvait à Bonn.
D'accord.
Il venait quelquefois pour examiner les enfants. Mais pour donner un rachat, une conférence, n'est-ce pas? Mais comme ça, Isaac Offenbach est devenu de facto l'autorité
religieuse
de Cologne à son temps. Oui.
Très bien. Alors on écoute un troisième extrait donc du CD Jacques Offenbach et ses proches. Il s'agit de Ki Onu Amecho, donc écrit pour chœur de femme, alors ténor, solo et piano.
Oh,
Donc, dans la prononciation ashkénaze, hein, qui est Anu Amecha, si on veut le prononcer en hébreu moderne, donc écrit pour chœur, ténor solo et piano, toujours extrait du CD Jacques Offenbach et ses proches. Moi, ce qui me frappe, Jacobo Kaufmann, quand j'entends cette musique, pour un autodidacte, un compositeur comme Isaac Offenbach, autodidacte, donc qui a appris de par lui-même tout, moi je sens des influences, c'est très lyrique, même des influences peut-être de Mozart. Il est né en 1779.
Et Schubert aussi.
Oui.
Oui, il est très, naturellement très influencé par la musique de son temps. Il la connaissait très bien. Il était membre de plusieurs organisations de musique aussi, très respecté. Il était ami personnel de Liszt et de Weber. On lui connaissait très bien et il était au courant de ce qu'on composait autour de lui, de lui-même, n'est-ce pas?
Alors, ça rejoint un peu la question que j'allais vous poser, parce que moi, quand j'entends cette musique, je me demande qu'est-ce qui la différencie finalement de ce qui est joué dans l'environnement proche, sur les scènes d'opéra ou dans les églises ou les temples protestants, peut-être en Allemagne. Est-ce qu'il y a une différence stylistique à ce point-là?
Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il a essayé de faire les prières les plus attrayantes pour la communauté. Il a fait le possible de ne pas avoir un style pleurant qui existait jusqu'à ce moment-là et qu'on écoute souvent chez d'autres compositeurs. Il voulait toujours faire que la prière plus avec une allégresse, avec simcha, n'est-ce pas, pour avoir la communauté avec soi.
Mais ce style pleurant, c'est peut-être plus celui qui vient d'Europe de l'Est, vous savez, avec les sanglots dans la voix, et qui a influencé en tout cas la Razzano d'Europe de l'Ouest.
Il avait beaucoup de problèmes en Allemagne aussi, pas seulement à l'Est, n'est-ce pas? Et alors on pleurait beaucoup.
Mais on savait aussi rigoler, comme on va le voir avec des œuvres d'Isaac Offenbach, parce que Isaac Offenbach a écrit des œuvres plus gaies, notamment des chansons de Purim, ou même des Purim Spiel, où là c'est pas vraiment, on pleure, mais à la fois derrière, il y a un côté un peu satirique quand même. Hein.
Non, le Purim Spiel qu'il a écrit, Esther, les Israélites, comme on les appelait à ce temps-là, échappaient de Haman, Haman Arasha, n'est-ce pas? Mais vous savez, les Allemands aujourd'hui disent que c'est s'agit de d'une comédie. Moi, je pense que il s'agit d'une tragédie. Il a écrit ça en 1833, mais ça sonne comme s'il était écrit en 1933.
Ouais.
Et souvent, le vocabulaire des personnages d'Aman, sûrement, s'approche très au vocabulaire des nazis après. Ouais. C'est comme s'il avait entendu déjà ce qui allait se passer. Mais il a écrit pas seulement ça, il a écrit des chansons, il a écrit deux poèmes comiques aussi, vers la fin de sa vie aussi, en 1848 et 49 aussi, il a écrit un poème comique d'un Mocher Sefarim, un vendeur de livres, n'est-ce pas? Et un autre, le poème comique d'un vendeur d'un antiquaire. Et c'est très, très, très joli et très comique, naturellement.
Et très comique. Ouais. Alors, je corrige juste, 33, c'est l'avènement d'Hitler au pouvoir, c'est pas la nuit de cristal. Mais à propos de comique, on va écouter cette chanson à boire de Purim, qui est vraiment drôle, moi, je trouve, qui s'intitule Kirlot Yeni Tered Eini. Ça veut dire quoi, d'ailleurs?
Oui. Quand on est terminé le vin, on a servi de l'eau. Et c'était un poème de Gabirol, Ibn Gabirol, qu'il a il ajoutait seulement un vers à la fin. Mais c'était...
C'était un vers de trop, comme
oui,
on dit en français.
Ibn Gabirol était invité chez un homme très riche, juif, mais qui n'avait pas l'intention de donner beaucoup de vin à ses hôtes, n'est-ce pas? Alors, il a écrit ça comme vengeance personnelle.
Ça, c'est une façon de se venger assez agréable en musique. Oui. Alors, on l'écoute tout de suite et puis on se régale les oreilles à défaut de se régaler l'estomac.
Baby, 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 baby
Kirlotieni Tered Eni, une chanson à boire de Pourim, dans la veine musicale la plus drôle et la plus envolée d'Isaac Offenbach, par l'ensemble La Trouette Lyrique, pardon, dirigé par Hector Sabot, et au piano Léo Sabot, le fils de Hector Sabot. Alors, c'est amusant parce que là, on croirait entendre déjà presque du Jacques Offenbach. En fait, ça, on est dans la farce, on est dans l'opéra bouffe, presque, non?
Mais vous savez que Jacques a pris de son père beaucoup des mélodies qu'on entend dans ses opéras.
C'est à ce point-là.
Il a des fragments qu'il a pris personnellement de son père. Il avait toujours un portrait de son père sur le piano.
D'accord.
Il adorait, vraiment il adorait. C'est son père qui l'a fait venir à Paris aussi avec son frère Jules aussi, n'est-ce pas? En 1833, Isaac Offenbach a pris ses deux fils à Paris pour le faire apprendre la musique à Jacques, le cello, et à Jules, le violon. Mmh. Et ils ont eu un poste même au consistoire à cette époque-là. Vous savez, Isaac a essayé de se faire contacter aussi à la communauté. Il a fait deux auditions.
À Notre-Dame de Nazareth, alors, à l'époque.
Notre-Dame de Nazareth, oui. Il a donné deux auditions en Shabbat. On n'a pas pris, mais on a pris les deux enfants à ce temps-là. Isaac avait 14 ans. C'était après son bar mitzvah, et Jules, il avait 18. Et ils ont fait leur travail pendant 6 mois. Et après, il y a eu une discussion avec le rabbin Marchand de Néry et ont pas allongé leur contrat.
Ils n'ont pas prolongé leur contrat. Donc.
Non, alors ils étaient pratiquement dans la rue, sans travail, sans rien. Et autrement, Offenbach était resté à la synagogue au lieu d'être connu comme compositeur d'opéra.
Alors il aurait peut-être écrit le galop 2, mais ça n'aurait pas été Orphée aux Enfers, ça aurait été peut-être un autre Alléluia, et on aurait tous dansé à la synagogue.
Exactement.
C'est ce qui aurait été formidable. Oui. Non, mais ça, c'est des histoires incroyables, en fait.
Mais c'est vrai, absolument vrai, n'est-ce pas?
Ah, j'en doute pas à un moment.
Oui.
Mais alors, c'est vrai, et en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est que, justement, à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, aujourd'hui, des fois, on dit la synagogue où il y a l'orgue de Offenbach.
Ça n'existait pas à son temps. Il n'avait pas d'orgue.
Ben non, cette synagogue a été reconstruite en 1852, et là, on parle bien de la période de 1833, et il n'y avait absolument pas d'orgue,
non.
Effectivement. Donc, voyez comme quoi, après, n'avoir pas voulu prolonger le contrat de Jacques et son frère Jules Offenbach à Notre-Dame de Nazareth, finalement, on s'est réapproprié un petit peu la mémoire de ces
peut-être
de,
pour
de,
le
de
touriste
musiciens.
Aussi. Vous savez qu'en Italie, à Mantoue, il a une maison qu'on dit la maison de Rigoletto. C'est la même chose.
Ouais, c'est pareil, elle n'existe pas. Alors, on va écouter une dernière pièce de Isaac Offenbach avant de parler de Jacques Offenbach et d'écouter donc les quelques prières de Jacques Offenbach. Il s'agit d'une chanson de Pessard bien connue.
Radgadia, non ?
Radgadia, absolument. Alors là, il y a aussi je ne sais combien de versions dans toutes les judéo-langues, c'est-à-dire on la chante dans la langue du pays, dans la langue vernaculaire.
Oui.
Alors là, elle est en allemand, en ancien allemand, Ein Lämmchen.
Oui.
Qui veut dire un petit agneau, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et c'est toujours donc dans ce disque Jacques Offenbach et ses proches.
En 1838, on a écrit ça.
Alors 1838, vous voyez, mais vous verrez, c'est toujours très moderne et aussi toujours très amusant.
Er schlug zu sein, dann stammte den
Un extrait donc de Radgada Ein Lämmchen, donc la chanson de Pessard d'Isaac Offenbach, toujours dans l'interprétation de la truite lyrique dirigée par Hector Sabot. Alors, Jacobo Kaufmann, il a eu une longue carrière au service de sa communauté à Cologne. Combien d'années et...
À peu près 30 ans, oui. Et vous savez, ce que nous avons écouté maintenant faisait part de la Haggadah qu'il a publiée aussi. Il était très préoccupé pour le déclin de connaissances de choses juives entre les jeunes et la connaissance de l'hébreu aussi. Alors il a publié cette Haggadah et il a mis dedans les notes pour les Khadgadia et de plusieurs autres chansons qu'il n'avait pas composées aussi d'autres compositeurs. Et vous savez que l'année après, il avait sorti aussi un Sidour pour la même raison, avec des traductions à l'allemand pour les jeunes, pour le faire comprendre bien pour les jeunes, parce qu'ils ne savaient pas tellement l'hébreu à ce temps-là.
Alors, il était très attaché à son judaïsme, vous l'avez dit, un judaïsme, je ne sais pas si c'était orthodoxe totalement, parce qu'en même temps, on voit qu'il est ouvert sur la société de son temps. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que Jacques Offenbach, on le sait, donc s'est converti au catholicisme en 1844, parce qu'il était fou amoureux de Herminie d'Alquin.
Seulement pour ça. Oui.
Voilà, mais comment son père l'a pris, est-ce qu'on sait ça? Parce que ça a dû être assez terrible quand même pour Isaac Offenbach.
Oui, mais on n'a pas de documents pour savoir exactement comment il a réagi. Mais ce qu'on sait, que Jacques Offenbach n'est pas allé à la maison pendant 5 ans. Ah. Il n'était pas là. Mais après, en 1848, quand il avait des problèmes politiques partout, en France naturellement aussi, et il est allé avec sa nouvelle famille, Jacques, avec sa femme et sa petite-fille, il est allé à Cologne. Ils sont très bien reçus. Et aussi, vous savez, Isaac était un homme orthodoxe, mais il savait très bien ce qui s'est passé dans le monde dans ce temps-là. Il savait aussi que beaucoup de gens se convertissent pour des raisons, pour avoir l'entrée dans la société ou dans l'académie, comme Henri Heine, par exemple, lui aussi s'est converti seulement pour cette raison-là. Il a naturellement, après, il n'a pas aimé ce qu'il avait fait. Mais Jacques Offenbach était toujours avec des Juifs. Quand il allait quelque part, hors de Cologne, par exemple à Bad Ems, ou à Vienne, il logeait toujours dans des hôtels juifs, il mangeait toujours dans ces hôtels où on servait des choses cachères.
Ah, ça, c'est amusant quand même.
Oui.
Alors, on va justement parler de Jacques Offenbach. Et Jacques Offenbach, donc, vous avez trouvé, c'est ça qui est absolument étonnant, parce que vous avez fait des recherches. Comment, en fait, en quelques mots, vous avez pu accéder à tous ces documents d'Isaac Offenbach et ses partitions, et puis finalement aussi les partitions de Jacques, en quelques mots.
Bon, Jacques a écrit plus de 100 opéras.
Oui.
N'est-ce pas? Et la musique de chambre aussi, instrumentale et de chansons aussi. Mais il a écrit aussi, il a rigolé un peu quand il était très jeune, je pense à l'âge de 16 ans, quand il était à Paris déjà, il a écrit une musique qu'il appelait Rebecca, qu'on n'a pas trouvé la musique.
C'était une suite de valse en fait. Mais
il disait qu'il s'agit de la musique traditionnelle juive du 15e siècle. Mais Lévi, vous savez, le fils du fameux chanteur Lévi, il écrivait dans le Ménestrel à cette époque-là. Là, il a beaucoup critiqué ça, mais eh bien, Jacques a eu toujours des contacts avec des choses juives. Il n'a jamais perdu le contact. Je me rappelle que vous avez demandé aussi.
Oui, non, je voulais savoir, c'était par rapport à la. Finalement, vous avez retrouvé deux partitions de Jacques Offenbach.
Non. Et c'était un miracle, peut-être, parce que des amis m'ont donné quelque chose, et moi, j'avais beaucoup toujours eu l'intérêt pour la musique de Jacques Offenbach, parce qu'il y avait quelque chose de très familial, des choses que j'avais entendues dans mon enfance, sans savoir de qui c'était, qu'il s'agissait. Et je suis allé à plusieurs endroits, je suis allé à l'archive et à la synagogue, un peu pas tout le monde, pendant 7 ans, et j'ai trouvé toute la musique d'Isaac, par exemple, je l'ai trouvé à Hebrew Union College à New York.
D'accord.
Et cette musique était seulement là. Maintenant, elle se trouve, j'ai donné tout ce que j'ai pris à la Bibliothèque nationale d'Israël. On peut le consulter là-bas, ça existe.
Grâce à vous, formidable. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter donc une des premières pièces de Jacques Offenbach, une des premières prières, parce que c'est vraiment une découverte. Tout le monde connaît Jacques Offenbach, le roi de l'opéra bouffe, mais on ne sait pas qu'il a composé aussi quelques pièces, mais essentiellement deux prières. Donc, on va entendre la première de ces prières, qui est donc une prière de Kippour.
Le Vidouille.
Le vidouille, c'est la confession, en fait.
Oui,
hein.
Oui.
Donc, cette prière, Tavo Lefonera, écrite donc pour trio d'hommes a cappella, c'est-à-dire sans aucun accompagnement instrumental. Un extrait donc de cette prière de Kippour, Tavo Lefonera, écrite par Jacques Offenbach, un Jacques Offenbach qu'on ne connaît pas du tout sous cet angle-là, très recueilli, complètement différent de la musique de son père. Comment expliquer l'existence de ces deux prières ?
Il, lui-même, Jacques et son frère Jules, sont retournés à Cologne pour une visite. Ils ont chanté dans la synagogue avec leur père, un trio. Et c'est en 1841, il a composé ces deux chansons justement pour les fêtes, pour le Yom Kippour.
Et c'est comme ça qu'on a donc ces deux pièces de Jacques Offenbach. On va entendre d'ailleurs la deuxième, un extrait, parce que le temps presse maintenant. Vous voulez dire un dernier mot peut-être, Jacques?
Oui, Jacques. Vous savez que l'éducation religieuse de Jacques est indiscutiblement juive. Il savait beaucoup d'hébreu aussi, hein, parce qu'il avait appris ça chez son père. Et il est allé seulement à l'école juive qui était juste à côté de sa maison.
Formidable. Ben écoutez, on vous entendrait parler pendant des heures, mais je crois que, en fait, pour nos auditeurs qui s'intéressent à cette histoire, je vous recommande donc le livre de Jacobo Kaufmann, Isaac Offenbach and his son Jack, donc Isaac Offenbach et son fils Jack. Ce livre n'est pas encore traduit en français, donc s'il y a quelqu'un qui veut le traduire, qu'il se manifeste auprès de l'Institut européen des musiques juives. Et puis, bien sûr, courez-vous procurer le CD Jack Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra aux éditions de l'Institut en promotion à 10 € hors frais de port jusqu'au 31 décembre 2019 sur notre site internet iemj.org. Donc, Jacobo, Jack, comme Jack Offenbach.
Yaakov, c'est
voilà, Yaakov, mais c'est le même nom que Jack Offenbach, que Jack, le même prénom. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un dernier extrait du chœur a cappella, donc Oshanu de Jack Offenbach. Un extrait du Oshanu de Jack Offenbach pour chœur a cappella, extrait donc du CD Jack Offenbach et ses proches de la synagogue à l'opéra. Jacobo Kaufmann, notre émission se termine. Merci infiniment pour votre présence et tout ce que vous nous avez raconté. On aurait aimé que ça continue et on va vous retrouver le mois prochain pour parler d'un tout autre sujet. Émile Jonas et Jules Erlanger. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur judaïquefm.fr, ainsi bien sûr que sur le site de l'Institut européen des musiques juives où il y a d'ailleurs les 79 émissions précédentes. Au micro, Hervé Rotten, David à la technique, que l'on remercie. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.